20 часов в Париже.
Париж,
20
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir avec vous, Mihaela Antoche de la rédaction roumaine.
Bonsoir, bonsoir.
Avec un pays à la recherche de son nouveau gouvernement après l'élection présidentielle. Pour la rédaction brésilienne, c'est Lucia Mouzel.
Bonne nuit.
Vous revenez de Nice où se tenait la conférence sur les océans. Et Paul Meyers de la rédaction anglophone.
Good evening.
Vous nous parlerez tennis après Roland-Garros et avant Wimbledon à Londres. Qui fait la une de l'actualité en France, c'est la violence à l'école après plusieurs agressions. La dernière en date, une surveillante assassinée à coups de couteau par un adolescent de 14 ans en Haute-Marne. Nous allons y venir dans un instant. Avant cela, il y a ce qui pourrait déclencher une guerre ouverte entre l'Iran et Israël après les frappes de Tzahal qui ont tué le chef des guides de la révolution et des responsables du programme nucléaire iranien. Ce qui s'est passé la nuit dernière a mobilisé toutes les rédactions de RFI. Paul, qu'y a-t-il à lire sur le site de RFI English ?
Well, il y avait, nous avons publié un article sur les réactions à travers le monde, notamment en France et en Grande-Bretagne. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé à la retenue et le premier ministre britannique, Keir Starmer, a relayé le même message.
Mihaela, quelles sont les réactions du côté de la Roumanie?
Le ministère des Affaires étrangères a réagi immédiatement et a émis une alerte voyage à destination d'Israël. Les citoyens roumains qui se trouvent déjà sur le territoire israélien sont invités à suivre les instructions des autorités et s'abriter dans des lieux spécialement désignés en cas de frappe aérienne. Ils sont également invités à signaler leur présence à l'ambassade de Roumanie à Tel Aviv ou au consulat roumain à Haïfa. En ce qui concerne l'Iran, il est conseillé aux voyageurs roumains d'éviter de voyager et de quitter immédiatement le pays, si c'est possible. Enfin, les compagnies aériennes ont annulé leur vol Bucarest-Tel Aviv et de retour.
Lucia, du côté du Brésil.
Le gouvernement brésilien a fermement condamné et dit suivre avec une vive inquiétude l'offensive aérienne israélienne lancée tôt ce matin. Dans un communiqué, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, estime qu'il s'agit d'une violation flagrante de la souveraineté de l'Iran et du droit international. Le ministre ajoute que ces attaques menacent de plonger toute la région dans un conflit de grande ampleur.
Et alors que la situation évolue de minute en minute et d'heure en heure. En France, ce qui fait l'objet d'émotions, de réactions, de condamnations et de propositions, c'est le meurtre d'une surveillante par un jeune élève. Exactement ce qui se passe d'ailleurs dans cette série Netflix intitulée Adolescence et qui rencontre un grand succès à la télévision. Du fait de sa minorité, le meurtrier âgé de 14 ans encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Paul, vous vous êtes attaché aux très nombreuses réactions que ce meurtre a donc provoquées.
Oui, cette affaire a ravivé les appels urgents en faveur d'un meilleur soutien en matière de santé mentale et d'une sécurité renforcée dans les écoles. Mais l'ironie, en fait, c'est macabre, et que l'attaque s'est produite pendant l'une des initiatives visant à empêcher un tel événement. Donc on voit la difficulté de garantir la sécurité dans les écoles. En plus, l'agresseur présumé n'était pas quelqu'un qui avait des antécédents de violence ou qui semblait être un élève à problème. Le fait que la mère et le père travaillaient était l'un des commentaires qui ont été formulés à la suite de l'attaque, comme pour dire que nous nous attendons à de la violence si les parents ne travaillent pas.
Et puis, il y a eu des annonces officielles.
Comme d'habitude, il faut montrer qu'on agit. La rédaction a mis en avant les options, fouilles des sacs, restrictions de l'accès aux réseaux sociaux, pour les moins de 15 ans, comme l'a suggéré le président Emmanuel Macron. Aucune de ces idées n'est mauvaise, mais la difficulté demeure.
Lucia, le Brésil est en ce moment même en train de durcir sa loi sur les crimes commis en milieu scolaire.
Oui, le Sénat brésilien vient d'adopter un projet de loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison pour les délits commis dans les écoles. Cette proposition modifie le code pénal ainsi que la loi sur les crimes de la haine et durcit donc les peines pour des infractions telles que des coups, des blessures volontaires et bien sûr l'homicide. La peine pour homicide sur des mineurs de moins de 14 ans pourra s'alourdir de 2/3 s'il se produit dans un établissement scolaire. Cela fait suite à l'augmentation des attaques de violence entre 2022 et 2023 au Brésil, un phénomène qui est très récent au pays et attribué en grande partie à l'usage intensif des réseaux sociaux par les adolescents.
Oui, des menaces contenant des menaces liées aux écoles qui ont augmenté de 360%. Mia, et là, le phénomène de la violence à l'école se manifeste également en Roumanie et en plus, c'est en augmentation.
Oui, j'aimerais vous donner rapidement deux exemples d'élèves qui ont utilisé un couteau pour attaquer l'un un camarade de classe et l'autre, plus grave, une enseignante qui a été blessée, heureusement, légèrement. Un élève de 12 ans du comté de Iași, dans l'est de Roumanie, a menacé un camarade de classe avec un couteau. L'élève a avoué qu'il venait souvent à l'école avec ce couteau. Nous ne savons pas encore quelle peine lui sera infligée. Ce que nous savons, c'est que la mère du garçon de 12 ans a été condamnée à une amende parce que l'élève est mineur. Dans un autre cas qui se produit en 2023, dans un lycée de Bucarest, un garçon a attaqué une enseignante en japonais avec un couteau parce qu'elle avait annoncé un examen à l'improviste. Elle s'en est tirée avec des blessures légères et le lycéen a été condamné à 5 ans de détention dans un centre pour mineurs.
Donc cela illustre là aussi une augmentation de la violence dans les écoles.
Tout à fait, Philippe. Un rapport montre que 69% des actes relèvent de la catégorie agression contre une personne et 4% d'atteinte à la sécurité d'établissement scolaire. En théorie, On est passé à des choses concrètes qui peuvent être appliquées dans la pratique. Une loi stipule que le mineur agresseur est obligé de suivre des programmes de conseil psychologique avec ses parents. Une autre mesure qui a nécessité 5 ans de discussion est la création d'un bouton rouge, une adresse électronique mise en place dans chaque école où les élèves ou les enseignants peuvent signaler anonymement des cas de violence ou de consommation de drogue ainsi que les harcèlements.
Et ce soir, à Nogent, un bourg de 3500 habitants en Haute-Marne, se déroule une marche blanche en hommage à Mélanie, donc cette surveillante de collège tuée mardi. C'était devant le collège Françoise Dolto, dont les grilles ont été recouvertes de fleurs par les habitants.
This is Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Dans ce studio de la rédaction brésilienne, Lucia Mouzel, vous étiez cette semaine à Nice pour la conférence de l'ONU sur les océans. Elle vient de s'achever. Alors même si les avancées sont, disons, timides, elles sont saluées par la plupart des ONG et des experts que vous avez rencontrés sur place.
Oui, ce qui est surtout célébré, Philippe, c'est que pour la première fois, un grand nombre de ministres et de chefs d'État ou de gouvernement ont participé à une réunion internationale spécifique sur la protection des océans. Ils ont l'habitude de la conférence sur le climat. Très peu d'entre eux assistent à la COP sur la biodiversité. Mais en ce qui concerne l'océan, c'est vraiment une première. Plus de 60 chefs d'État et 130 ministres y étaient présents, dont le Brésilien Lula, qui était à Paris pour une visite d'État la semaine dernière et qui a tenu à rester en France pour la conférence de Nice, accompagné de 5 de ses ministres.
Est-ce que tout cela s'est traduit par des avancées?
Alors, je vous rappelle que contrairement à la COP du climat, qui est à sa 30e édition, la conférence sur l'océan n'est qu'à sa 3e. Donc, le cadre juridique que nous connaissons pour les changements climatiques ou la biodiversité n'est pas encore acquis au niveau international. Il ne fallait donc pas s'attendre à des résultats historiques. Hein. André Abreu, directeur de politique internationale à la Fondation Tara Océan, Suisse, ce dossier depuis plus de 20 ans et il s'est montré très satisfait du coup de pouce en fait donné à Nice sur les différents traités qui sont actuellement en négociation, comme celui sur la haute mer. On l'écoute.
Esse tratado do alto mar fica frequentemente nas prateleiras dos ministérios sem ter a visibilidade.
Que dit André Abreu?
Il explique que ce traité reste généralement dans les tiroirs des ministères, invisible, mais maintenant avec l'engagement de plus de 20 pays pour le ratifier, soit un total d'une cinquantaine, on se rapproche de son entrée en vigueur, enfin. André Abreu se félicite aussi du fait que le groupe de pays soutenant un moratoire sur l'exploration minière de fonds marins est doublé à Nice, et ce, malgré la décision unilatérale du président américain Donald Trump de les exploiter. dit.
Et pour le Brésil, qui est pays hôte de la conférence sur les changements climatiques, la COP30, le sommet de Nice était surtout l'occasion d'éveiller les consciences finalement sur ce lien intime entre climat et océans.
Exactement. Les océans captent 25% du CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre, en stockant de la chaleur aussi. Cependant, l'excès de ces deux facteurs, les émissions de CO2 et l'augmentation des températures, il a entraîné une acidification des œufs océaniques, provoquant l'effondrement des écosystèmes marins. J'ai demandé à la directrice exécutive de la CEO, elle s'appelle CEO de la COP30, Anna Toni. Quelle influence les discussions menées à Nice pourraient avoir sur le sommet de Belém? Écoutons-la.
Non, va influencer de manière structurante, assim como a COP30 também está influenciando esse evento.
Que vous a-t-elle répondu?
Elle répond que Nice aura une influence structurelle sur Belém, car le climat et l'océan sont indissociables, même s'ils sont traités dans deux sommets différents. Pour protéger l'un, il faut protéger l'autre et vice-versa, dit-elle.
Justement, si climat et océan sont si liés, il faudrait s'attaquer aux émissions de CO2 pour préserver les océans. Mais le problème des énergies fossiles était absent dans le communiqué final de ce sommet de Nice.
Oui, c'est la grande déception des ONG qui s'attendaient à ce que au moins soit mentionnée une transition vers l'abandon des énergies fossiles, qui sont les principales responsables du réchauffement climatique. Le Brésil, d'ailleurs, a été pointé du doigt sur ce point, car si d'un côté le gouvernement brésilien a annoncé 7 engagements pour la protection de ses côtes, salué par les défenseurs de l'environnement. De l'autre côté, le pays hôte de la COP30 s'apprête à mettre aux enchères publiques de nouveaux blocs d'exploitation pétrolière sur ces mêmes côtes-là, y compris à l'embouchure du fleuve Amazon. Écoutons alors Anna Toni ce qu'elle a répondu à ces sujets.
Je pense important le thème des combustibles fossiles, des émissions des combustibles fossiles.
Elle pense qu'il est important que la question des combustibles fossiles, de leurs émissions, soit présente. C'est un débat difficile, elle le reconnaît, mais il doit avoir lieu. Elle se dit heureuse qu'à Nice, comme à la COP30, nous puissions le débattre avec ouverture d'esprit, en essayant de trouver des solutions bénéfiques pour les populations et bien sûr pour la planète.
Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne de RFI. En Roumanie, d'intenses négociations en ce moment même pour former un nouveau gouvernement et réduire le déficit. Depuis l'élection du président, c'était le 18 mai, les discussions entre les principaux partis politiques susceptibles de former une majorité n'ont toujours pas abouti. À l'heure actuelle, la situation est politiquement bloquée. Alors quels sont les points de divergence? Pourquoi les partis politiques ne s'entendent-ils pas? Des réponses avec vous, Mihaela Antoche, donc de la rédaction roumaine.
Tout d'abord, Philippe, le Premier ministre, quel qu'il soit, devra constituer une équipe qui satisfera tous les partis politiques et surtout d'assurer qu'ils auront une majorité et donc un soutien au programme de gouvernement. Deuxièmement, la nouvelle équipe aura la tâche difficile de mettre en œuvre un ensemble de mesures fiscales visant à réduire le déficit budgétaire de la Roumanie qui s'élève à 9% du PIB l'année dernière. Il s'agit d'un problème très grave pour lequel la Roumanie a été mise en garde par la Commission européenne. À l'heure actuelle, il n'y a aucune proposition concrète pour le poste de Premier ministre de la part d'aucun parti. Même l'idée de nommer l'ancien président par intérim, Ilie Bolojan, au poste de Premier ministre ne semble plus être une certitude.
Alors, quelles sont les options qui se présentent au président Nicu Jordan?
Il peut nommer l'un des dirigeants des partis politiques, accepter une rotation, ce qui signifierait que les principaux partis qui ont obtenu les premières places aux élections législatives dirigeraient à leur tour le gouvernement. Une autre option pour le président pourrait être un premier ministre technocrate, mais même dans ce cas, nous revenons à la difficulté d'obtenir une majorité. Pour donner un exemple, l'idée d'un premier ministre tournant est inacceptable, a déclaré Alexandru Muraru, vice-président du Parti national libéral, à RFI Bucarest.
Noi considerăm că o taxă de solidaritate care să-i pedepsească pe românii care muncesc.
Quelle est son analyse à Alexandru Moraru?
Alexandru Moraru dit en critiquant toutes les propositions des sociodémocrates anciens alliés au gouvernement avant les élections présidentielles.
Et puis, le prochain gouvernement doit mettre en œuvre des mesures d'urgence pour réduire les dépenses publiques et donc le déficit. Nous savons ici en France que ce type de mesure est synonyme d'impopularité et parfois de vote de défiance, de censure.
Tout à fait. Je voudrais dire que la France et la Roumanie font partie du même club. La Commission européenne a ouvert la procédure de déficit budgétaire excessive pour les deux pays, mais les réactions des deux gouvernements sont opposées. Alors que la France prévoit des mesures d'ajustement budgétaire, y compris en réduisant le nombre de fonctionnaires, on parle encore en Roumanie d'un système public surdimensionné et très, très politisé. Avec un déficit de 9%, la Roumanie risque des sanctions européennes et des coupes dans le fonds dont elle a tant besoin pour son développement. Et pour donner un exemple, le chef de file des sénateurs sociaux-démocrates, Daniel Zamfir, a déclaré à RFI Bucarest que la Roumanie ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui.
Aidez-nous à comprendre.
Oui, Daniel Zamfir dit qu'on ne peut pas parler de catastrophe économique malgré un déficit budgétaire de 9%, dit le sénateur, qui plaide pour que le système de taux d'imposition unique soit remplacé par un impôt progressif.
Les discussions et les négociations donc se poursuivent. La semaine prochaine, le président rencontrera même les principaux syndicats du pays. Merci à vous, Mihai Alaontoș, de la rédaction roumaine. Moins d'une semaine après la fin de Roland-Garros, Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem, aura lieu mi-juillet. Eh bien, il augmente les primes versées aux joueurs. 3,5 millions d'euros pour 7 victoires d'affilée. Coco Gauff et Carlos Alcaraz n'ont reçu que 2,5 millions pour leur victoire à Roland-Garros, à Paris, samedi et dimanche dernier. Alors, Paul Meyers, de la rédaction anglophone, les futurs vainqueurs de Wimbledon recevront plus d'argent, mais les finales seront-elles aussi passionnantes que celles de Roland-Garros auxquelles vous avez assisté?
Oui, en fait, c'est très très intéressant en fait, parce que la finale dames par exemple ici en France à Roland Garros, c'était pas du tout difficile en fait. Pour couvrir ça, c'était une vidéo des joueuses et un article sur le parcours. En fait, c'est quelque chose de très très intéressant à couvrir, oui, en fait.
Et chez les hommes, ce fut la plus longue finale de Roland-Garros, 5h30, si j'ai bonne mémoire.
Oui.
Rebondissement, suspense, comment vous avez couvert cette rencontre?
Ben, en fait, c'était avec un collègue. On a fait une vidéo d'une minute présentant les deux joueurs, le style, le point fort. Et en fait, l'idée de la vidéo était d'être léger, décontracté. Et on a fait ça avec des explosions, des choses comme ça, pour le choc.
Des explosions.
Il y a un choc, quand on dit choc, et en fait, il y avait le bruit quand on parle des grands joueurs comme ça. En fait, c'est ça. Et aussi, il y avait quelque chose assez sobre, en fait, pour couvrir la rivalité entre les deux.
Et pour ce qui est du match?
Bon, en fait, c'était un côté frustrant parce que moi, j'étais sur le point de terminer parce qu'il y avait 3 balles de match et puis tout d'un coup, Alcaraz les a sauvés et puis il fallait recontinuer et puis Sinner a servi pour le gain du match et puis il a raté. Et en fait, c'était beaucoup de cadences, beaucoup de choses différentes en fait.
Alors, côté français, donc ça, c'était bien avant. Hein, c'était bien avant, il y avait la finale dames avant.
Ouais,
et puis,
ouais.
Auparavant, il y a eu donc les qualifications et, bien évidemment, la performance spectaculaire de Loïse Boisson, la française.
Oui, blessée l'année dernière, juste avant Roland-Garros, elle s'est présentée au tournoi en tant que 360e joueuse mondiale. En fait, elle a fait un parcours spectaculaire. Et j'ai fait quelque chose, des articles avant le quart de finale, demi-finale. Et puis, en fait, il y avait ce qu'elle a dit après la demi-finale.
Écoutons-la.
Non, j'ai pas de peur particulière par rapport à ça, parce que c'est le tennis, voilà, forcément. Après, quand on rentre dans les 100, quand on gagne plus de matchs, bah, forcément, les gens s'intéressent un peu plus. C'est la suite logique, en fait. Donc voilà, non, j'ai pas de pression par rapport à ça. Et je suis très bien entouré et dans tous les cas, je vais garder les pieds sur terre et tout se passera bien.
Oui, elle parlait de la pression à partir de là maintenant parce qu'elle a monté, elle est montée 300 places.
300 places et puis un joli chèque aussi.
660 000 euros de prix.
Eh bien, dites-moi. Et en tout cas, c'était la première Française à réaliser cet exploit, à se qualifier, à aller aussi loin dans le tournoi depuis...
2011, en fait, parce que Marion Bartoli était la dernière Française en 2011. Voilà.
Et donc, c'était à Roland-Garros. On sait si Loïs Boisson jouera à Wimbledon.
Oui, peut-être les qualifications, mais c'est pas sûr si elle va...
On verra ça donc. Paul Myers de la rédaction en anglais de RFI, c'était Action du Monde, à retrouver bien évidemment sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale.